retrouver toutes les émissions sur franca-on-air.fr.
Bonjour, on est sur Radio Franca et c'est les élèves de seconde 2 du lycée Louis Majorel. Alors, on a travaillé sur le combat des femmes en cours de français et on a vu plusieurs textes. Donc, Léandro, tu vas nous parler d'un texte et de ce que t'en as pensé ?
Oui, moi je vais parler du manifeste des 343. Le manifeste des 343, écrit par Simone de Beauvoir et une journaliste, est une liste de 343 femmes ayant avorté illégalement, ce qui était un crime pour l'époque. Je l'ai choisi car elle montre la révolte des femmes contre l'interdiction de l'avortement, plus de 1 million de femmes ayant avorté clandestinement. Avec ce manifeste, elles veulent faire avancer les choses vers un avortement libre et gratuit. C'est un mouvement de lutte qui restera gravé dans ce combat pour l'avortement.
D'accord. Et ça t'a fait ressentir un peu quoi de savoir qu'il y a tant de femmes qui se sont battues ?
À l'époque, c'était tabou d'en parler et on risquait même la prison. Donc que 343 femmes aient eu le courage d'en parler, c'est beau.
D'accord. Elina, t'en penses quoi ?
Je trouve que c'est un beau texte quand même. Et c'est vrai, elles ont eu beaucoup de courage de dire ce qu'elles ont vécu dans le manifeste des 343.
Et toi, tu as parlé de quel texte ?
Moi, je vais vous parler du texte « Le deuxième sexe », tome 2 de Simone de Beauvoir, qui m'a marquée car elle parle du quotidien d'une jeune fille qui dit ce qu'elle doit faire et ses obligations. Elle explique qu'après une dure journée, la jeune étudiante doit faire des commissions, terminer les travaux ménagers, alors que son frère, il ne fait rien du tout. Et elle évoque aussi que les adolescentes n'ont pas autant d'encouragement que leurs frères. Certaines d'entre elles avaient attrapé des maladies assez graves et on leur obligeait de rester à la maison, on surveillait leurs sorties. Et à cause de tout ça, elles n'osaient pas faire de grandes choses et que le succès était dédié aux hommes. Et dans ce texte, on voit que les filles manquent de confiance en elles et qu'elles n'ont pas beaucoup de liberté.
C'est beau, c'est beau. Thibaut ?
Les femmes ont eu beaucoup de courage à faire ça.
D'accord. Et toi, t'as travaillé sur quel texte ?
Moi, j'ai fait l'extrait de l'Union ouvrière de Flora Tristan, publié en 1843. Dans cet extrait, Flora Tristan dénonce l'oppression subie par les femmes à travers les siècles, en allant à la rencontre de la population souvent oubliée à cette époque, comme les ouvriers, les mineurs ou bien les femmes. Elle montre comment l'Église, la loi ou même la philosophie les ont réduites au silence et à la soumission dans cette société. Par exemple, Flora Tristan rapporte que le prêtre a affirmé, en s'adressant aux femmes, « Tu es la tentation, le péché et le mal ». Ce discours montre comment le prêtre a fait des femmes des coupables et des péchés de la religion. Flora Tristan critique également la loi qui considérait les femmes comme dépendantes de l'homme à chaque étape de leur vie. Elle déclare, je cite, « Tu obéiras à ton père, puis à ton mari, et enfin veuve, on t'ignorera. » Cela montre l'absence totale de leur reconnaissance et de leur indépendance. Enfin, elle souligne que les philosophes de leur époque les décrivaient comme inférieurs intellectuellement et moralement, ce qui servait à maintenir la société patriarcale dominante. Pour finir, ce texte est frappant car il met en lumière des injustices encore actuelles et rappelle l'importance de lutter pour l'égalité. Flora Tristan, à travers son écriture, a incarné une véritable figure de résistance.
Intéressant de voir que même les figures d'autorité de l'époque prônaient le fait que la femme était largement inférieure à l'homme. Moi-même, j'ai pu travailler sur le discours de Simone Veil en faveur de l'IVG. J'ai choisi de parler de ce texte parce que, dans un premier temps, le discours de Simone Veil est un peu plus récent que tous les textes qu'on a pu travailler et que ça parle d'une loi qui, même encore aujourd'hui, est très importante et même fondamentale dans les droits des femmes, étant donné que ça nous permet de contrôler une grossesse qui peut être non désirée ou même une grossesse qui n'était pas prévue du tout. Cette loi nous permet de, en soi, contrôler nos vies, parce qu'une grossesse qui est arrivée suite à un viol ou même à un accident, le fait de ne pas pouvoir la contrôler et d'être obligée de garder un enfant qu'on n'a pas voulu, ça peut être peut-être pas handicapant dans notre vie plus tard, mais ça, un enfant c'est pour la vie, donc toute notre vie on va se dire que cet enfant on l'a pas voulu, qu'on aurait pu vivre sans, et le fait d'avoir le choix de garder un enfant ou non, c'est important, même si l'avortement on le fait pas en étant joyeux d'y aller. Et c'est pour ça que je pense que c'est courageux de la part de Simone Veil d'avoir fait son discours en sachant que beaucoup d'hommes allaient mal le prendre et le controverser, et c'est courageux à toutes les femmes qui avant et même pendant son discours, se sont battus pour que cette loi puisse passer et que la société prenne conscience de l'importance de cette loi. Et ben, sur le même thème, il y a Louise qui a travaillé également sur le manifeste des 343.
Donc j'ai travaillé sur le manifeste qui est donc qui a été signé par 343 femmes qui ont avorté, qui ont décidé de sortir du silence. Donc il a été donc c'est grâce à Simone de Beauvoir que le manifeste a été lancé. Donc j'admire vraiment le courage qu'ont eu ces femmes de montrer à tout le monde qu'elles avaient subi un avortement à une enfin dans une époque où c'est illégal, où on n'en parle même pas en fait. Et j'aime aussi l'impact que ça a eu sur la société de l'époque et vraiment à quel point ça a réussi à nous faire avancer, à nous faire évoluer. Et ça a vraiment eu un impact, un très grand impact en fait sur l'avortement aujourd'hui. Ça a facilité l'IVG en fait. Donc ça a permis à aussi beaucoup de femmes de sortir du silence elles aussi et afin de se soutenir dans ce combat.
C'est bien, c'est bien. Adam, t'as travaillé sur quel texte ?
J'ai travaillé sur le deuxième sexe écrit par Simone de Beauvoir. Mmh. Donc ce texte, il m'a beaucoup marqué grâce à Simone de Beauvoir, on s'aperçoit qu'en 1949, les femmes manquaient cruellement de droits. Elles sont complètement soumises aux hommes. Mais grâce à de grandes femmes comme Simone de Beauvoir, ces époques sont maintenant terminées.
Moi, j'ai décidé de vous parler de L'Union ouvrière de Flora Tristan, paru en 1843. Tout d'abord, je l'ai choisi parce qu'il dénonce les inégalités hommes-femmes au sein de la société du 19e. Je trouve que c'est un petit peu ludique, on va dire, parce qu'on passe par des personnages, des figures importantes, telles qu'un prêtre, un savant, un législateur, donc qui représentent respectivement la religion, la science et l'État. Donc ça permet en fait de comprendre les mentalités qui sont plutôt ancrées de l'époque. Mais je l'ai aussi choisi parce que le discours direct, donc il donne envie au lecteur de se plonger dans le texte. Et personnellement, je trouve que le texte est plutôt facile à lire et qu'il est assez plaisant. En conclusion, j'ai choisi pour le plaisir que j'ai eu à le lire, mais aussi pour le côté dénonciateur de l'ouvrage.
Et bah, franchement, tu l'as bien vendu. J'aurais presque envie de le relire. Amandine, toi, tu avais travaillé sur quel texte ?
De Simone Veil.
Mmh. T'en as pensé quoi ?
Je vais parler de Simone Veil, une grande figure politique et militante française, connue pour avoir défendu la loi sur l'IVG en 1974. Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, a prononcé un discours historique pour défendre le droit des femmes à avorter, un droit essentiel qu'elle a réussi à faire passer malgré une forte opposition. Ce discours m'a vraiment marquée, car elle a parlé avec beaucoup de courage et de dignité, tout en racontant son propre vécu de femme, ce qui a rendu ses paroles encore plus fortes. Elle a fait preuve d'une grande détermination et grâce à elle, des millions de femmes ont pu obtenir un droit fondamental. Ce discours est un exemple de courage et de défense des droits des femmes, un modèle à suivre.
Mmh. Puis le fait qu'elle ait mis toutes ses convictions, ça rend encore plus son discours vivant. Ézéchiel, toi tu vas nous parler du Bal des Folles ?
Oui, je vais parler du Bal des Folles que nous avons lu en livre de Victoria Mas, qui a été écrit et publié en 2019 et adapté en film par Mélanie Laurent en 2021, qui est sur Prime Video si vous voulez le regarder. J'ai choisi cette œuvre car c'est touchant de voir la vie des femmes internées dans l'hôpital de la Salpêtrière, où elles étaient enfermées et maltraitées. C'est aussi touchant car ça montre que les femmes étaient des cobayes pour les hommes, notamment pour l'hypnose, la science et les nouvelles expériences. Et finalement, elle se retrouve malade à cause de ça, donc les nouvelles expériences et la science. Et non, où elles étaient internées, donc c'est assez touchant de voir ça.
Mmh. Charlie, tu en penses quoi de...
Je suis totalement d'accord avec Ézéchiel. Ouais. Il a très bien expliqué.
Et toi, tu choisis de nous parler de quel texte ?
Alors pour ma part, j'ai choisi le manifeste des 343. Cette pétition, apparue dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, a été signée par des femmes déclarant alors « Je me suis fait avorter », ce qui était alors illégal. Cela a été un réel acte de courage, car ces dernières auraient pu avoir des poursuites pénales. Dans ce dernier, elles y dénoncent les inégalités entre les classes sociales, car les femmes aisées peuvent aller avorter dans d'autres pays avec l'aide de spécialistes, tandis que les autres femmes restent en France et avortent dans l'ombre et l'illégalité, avec la possibilité d'avoir des traumatismes physiques sévères. et le fait que les femmes devraient avoir la totale maîtrise de leur corps en décidant quoi en faire. De plus, ce manifeste a fait bouger les choses, car il a ouvert la voie à l'adoption, 4 ans après, de la loi Veil qui dépénalise l'avortement.
Bah franchement, très bien parlé. Maintenant, on va parler du bal des folles que nous avons étudié en livre et en film. Donc, le livre de Victoria Mas, édité en 2019, et le film de Mélanie Laurent. Clémence, tu peux nous remettre un peu le contexte du livre ?
Le roman et également le film donc, se déroule au 19e siècle. C'est dans l'enceinte de la Salpêtrière. La Salpêtrière, tout simplement, c'est un hôpital, donc un hôpital qui se trouve à Paris, dont l'un des docteurs s'appelait le docteur Charcot. Et sur ses patientes, en fait, tout simplement, il faisait des petites expérimentations. Et les femmes qui étaient donc envoyées dans cette hôpital, eh bien, elles étaient malmenées et c'était des femmes qui étaient dérangeantes pour la société ou qui dérangeaient leur famille ou alors il y avait des femmes qui étaient malades parfois, mais souvent c'est l'hôpital en fait tout simplement qui les rendait malades avec tout ce qu'elles subissaient là-bas, la routine en fait très carré donc de l'hôpital avec un réveil très tôt, on se couche à une telle heure, on va tous manger à telle heure, enfin voilà. Et elle ne pouvait même pas sortir, donc voilà.
Léo, tu peux nous en dire plus sur les personnages de Eugénie et Geneviève ?
Oui, on va faire ça. Eugénie, c'est une personne qui naît dans une famille de bourgeoises, mais elle n'est pas du tout intégrée à ça, c'est tout l'inverse en fait. Elle veut vivre librement et on lui impose des codes, et elle ne les respecte pas, donc... Son père la remet toujours à sa place, toujours. Elle a des pouvoirs, en fait, de pouvoir voir les esprits. Et le jour où on va se rendre compte de ça, on va l'enfermer à la Salpêtrière. Parce qu'elle est trop dérangeante et c'est pas normal d'avoir des pouvoirs, apparemment. Et donc, on va l'enfermer là-haut, sous prétexte qu'elle ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister, ce qu'elle a. Et on va l'enfermer, elle va tout subir. On va la traiter de folle, d'hystérique... Tout ça parce qu'on n'est pas connaissance et qu'on ne veut pas accepter le nouveau, la suite de ce qui pourrait arriver. Et donc Eugénie, elle a été enfermée là-haut à la Salpêtrière. Il y a aussi Louise qui, elle, est plus... Louise, c'est une jeune fille qui est... C'est une adolescente, en fait. Elle arrive à la Salpêtrière très jeune. Louise, quand elle arrive à la Salpêtrière, voilà, c'est plus un objet sexuel qu'une femme, en fait. Elle est testée de tous les côtés.
Louise, tu pourrais nous dire quelque chose pour nous donner envie de voir le film ou de lire le livre, selon les préférences ?
Alors déjà, il nous plonge bien dans la société à cette époque. Donc tout ce qui va être donc pour le film, ce qui va être costume, décor, etc. C'est vraiment très intéressant de voir la reproduction, la représentation. Puis on voit aussi ce qui est intéressant, je trouve, c'est la relation entre les personnages, comme par exemple entre Eugénie et Geneviève. On découvre Geneviève, c'est un personnage très intéressant. On découvre au départ une femme assez froide, puis finalement, on voit que c'est une humaine comme tout le monde qui a des sentiments et on voit qu'elle a un passé qui est pas facile, que c'est pas pour rien qu'on la voit assez froide, tout ça, qu'elle montre pas d'émotion. En fait, au fond, elle a. Enfin, je vais pas en dire plus, mais voilà, elle est humaine. Et elle a un passé, quoi.
Bah, merci beaucoup à vous trois pour votre avis sur le livre et le film. On retrouve maintenant Gabriel et Nathaël qui vont tous les deux nous parler de Simone Veil et de son discours pour l'IVG. Nathaël, tu commences ?
Donc j'ai choisi le discours de Simone Veil car dans son discours, on remarque que celle-ci n'a jamais arrêté de se battre et qu'elle pousse les députés à réfléchir et à prendre conscience de l'importance de faire passer cette loi. Elle veut nous convaincre de voter pour l'IVG. C'est le porte-parole de toutes les femmes. Elle cherche à capter l'attention en utilisant toutes ses convictions. Et je l'ai choisi aussi car c'est un texte assez récent.
Gabriel, ton avis sur le discours ?
Moi, j'ai choisi le discours de Simone Veil car elle a su s'affirmer devant une assemblée pratiquement remplie que d'hommes. Elle fait le porte-parole pour toutes les femmes qui se cachent d'avoir avorté illégalement. Elle fait preuve de courage et a mené un combat pour l'IVG, qui est un droit important pour les femmes, à une époque où l'avortement était encore un crime. Elle a défendu la loi qui permettrait aux femmes d'avoir elles-mêmes la possession de leur corps. Elle a réussi à faire adopter la loi le 17 janvier 1975. En effet, ancienne ministre de la Santé a réussi tout ça grâce à son importante aisance à l'oral. Dans son discours, elle y met toute son énergie et toute sa conviction. Elle nous dit que, prononce « Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame et cela restera un drame ». Cela signifie qu'elle nous montre vraiment que déjà avant, c'était compliqué d'écouter les femmes et ça ne changera pas en fait. Elle utilise des hyperboles pour insister, car il n'y a qu'une seule solution et c'est celle-là. Grâce à ça, elle cherche à capter l'attention en parlant déjà en tant que femme et après en tant que ministre en y mettant toutes ses idées.
C'est bien. Léo, toi, t'en as pensé quoi du discours de Simone Veil ?
Tout d'abord, le discours de Simone Veil, c'est un événement historique très important. Elle arrive sur cette tribune, elle ne sait même pas ce qui va se passer. Elle monte à cette tribune, courageuse comme tout, elle y va, le tout pour le tout, elle veut convaincre cette assemblée d'hommes, elle y va. Elle parle. 30 minutes de blabla, bon, elle n'est pas sûre quand elle ressort, mais tout ce qu'elle a fait, c'est convaincre cette assemblée de voter pour les femmes à ce jour. Et aujourd'hui, cette loi, elle est encore présente avec nous, scellée dans la Constitution. C'est un événement grandiose. Franchement, bien joué.
Merci Léo. Pour continuer sur le même texte de Simone Veil, on a Noëlla avec nous.
Oui, donc moi j'ai choisi le discours de Simone Veil, car c'est le texte qui m'a le plus touchée. En effet, c'est un discours, ce qui lui rend plus vivant que les autres. Également, Madame Veil a su exposer clairement ses arguments, le rendant compréhensible pour tous. Elle a utilisé des exemples comme des témoignages pour illustrer les souffrances des femmes confrontées à des avortements clandestins, ce qui a permis de sensibiliser l'opinion publique. Nous pouvons aussi voir que ce projet tient à cœur la ministre de la Santé à cette époque, ce qui m'a permis de plus accrocher et retenir ce texte. Mais aussi parce que malheureusement, l'avortement reste un sujet d'actualité, comme en témoignent les récents événements aux États-Unis où certains États ont interdit l'avortement. Le discours de Simone Veil rappelle l'importance de continuer à défendre les droits des femmes et à lutter pour leur autonomie et leur liberté de choix. Son discours est un rappel puissant pour rappeler que les droits obtenus ne doivent jamais être pris pour acquis et qu'il est essentiel de rester vigilant.
Emma, il me semble que toi aussi tu as travaillé sur le texte de Simone Veil. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
J'ai choisi l'un des discours les plus marquants de l'Assemblée nationale sur la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse en 1974. Il a été écrit par Simone Veil, qui est une ministre de la Santé. J'ai choisi ce discours car c'est un discours très émouvant. Il montre tout son courage et sa détermination pour le droit à l'avortement. Elle s'est battue pour obtenir cette loi, car la plupart des hommes étaient contre, car ils ne se préoccupaient pas des femmes. Elle a démontré également l'importance sur la liberté du choix d'une grossesse non désirée. Grâce à elle, des milliers de femmes peuvent choisir librement d'avoir des enfants ou non.
Toujours sur le thème de l'avortement, Mathis, tu vas nous parler du témoignage de Marie-Claire Chevalier.
Oui, je vais vous parler du témoignage de Marie-Claire Chevalier, car je l'ai trouvé très émouvant et qu'il raconte les injustices que subissaient les femmes à l'époque. Marie-Claire Chevalier raconte que quelqu'un a abusé d'elle. Par la suite, elle est tombée enceinte, donc elle a avorté. Mais l'avortement s'est mal passé, donc elle a dû aller chez le médecin, enfin les médecins, qui, pour la punir d'avoir avorté, l'ont soignée sans l'anesthésier. Pour finir, la personne qui l'a violée s'est fait arrêter par la police, mais l'a dénoncée pour éviter de se faire arrêter. Elle a donc fini au tribunal, mais elle a gagné grâce à son avocate Gisèle Halimi, ce qui est un grand pas pour la loi sur l'IVG.
C'est là qu'on voit à quel point l'avortement, c'est quelque chose qui restera ancré à jamais dans les pensées de tout le monde. Et on va finir par Abigail, qui va continuer à nous donner son avis sur le discours de Simone Veil.
Oui, du coup, j'ai choisi le discours de Simone Veil, qui était ministre de la Santé à cette époque, qui a, devant une assemblée constituée principalement d'hommes, s'est apporter sa voix pour l'honneur des femmes, pour son dévouement surtout au niveau de l'IVG. J'ai particulièrement apprécié ce texte parce qu'on voyait qu'elle était pour cette loi, qu'elle voulait que cette loi fonctionne pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir de la liberté et qu'on comprenne ce qu'elles ressentaient en n'ayant pas des libertés autant que les hommes. Donc, ils avaient besoin de certaines lois, comme cette loi sur l'IVG, pour pouvoir vouloir les enfants ou pas. Parce que souvent, il y avait des violences sexuelles à cette période, ce qui était très compliqué avec la contraception. Donc la plupart des femmes devenaient enceintes sans le vouloir. Et grâce à cette IVG, tout le monde pouvait avoir des enfants s'ils le voulaient. Si certaines femmes ne voulaient pas avoir d'enfants, elles n'étaient pas obligées de le garder. Elles étaient conscientes qu'elles avaient la possibilité de choisir ou pas cet enfant.
Merci Abigail. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Et c'était la classe de seconde 2 du lycée Louis Majorel sur Radio Franca.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.